another song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
auditrices, auditeurs de Radio Galère, nous sommes mercredi 5 mars 2025, nous sommes à Marseille, il fait beau. Vous écoutez Livres et Amis, Dominique et Françoise au micro et je ne sais plus qui est à la technique. Louise ! Elle est juste en face de moi. Et là, vous savez, je disais il y a 5 minutes que j'avais justement de la peine à penser pendant 5 minutes. Voilà, je ne savais plus où était Louise, qui était Louise. Ah là là, c'est dur la vie. Bon, vous m'excuserez. Donc, je reprends Dominique et Françoise au micro et Louise à la technique. Et donc, le monde, bah oui, le monde va toujours aussi mal, ou plutôt ses dirigeants sont toujours aussi fous. Alors, ça doit nous empêcher de penser de temps en temps ou de donner des petits trous dans le cerveau en ce qui me concerne, je ne sais pas. Bon, je m'abstiendrai de commentaires sur l'actualité internationale parce que je ne veux pas en rajouter à la déprime et à l'absurdité ambiante. Mais je vous dirai tout de même, puisque nous sommes tout près du 8 mars, qu'en Turquie, le gouvernement de Erdogan mijote des lois de police des mœurs qui se rapprochent tout à fait de celles de l'Iran et que nos sœurs turques risquent leur liberté en manifestant justement pour la défense de leur liberté. Alors le 8 mars en tout cas, parlons-en. Oui, c'est samedi prochain, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Il faudrait que ce puisse être partout une journée festive, revendicative, mais dans la joie, le rire, le partage, la volonté de vivre ensemble, le désir, le plaisir de vivre ensemble avec nos différences. Eh bien, nous sommes loin du compte. Donc, samedi, nous nous retrouverons tout de même pour manifester le plus possible dans la joie et la fête, mais surtout avec de la police qui nous surveille. Il y a deux appels que je vais relayer. C'est vendredi soir à 19h30, 20h au Vieux-Port pour une manif de nuit, donc une manif alternative. Et puis samedi au Vieux-Port encore à 14h30, quand je vous disais que j'avais du mal, merci. Donc 14h30 pour la grande manif du 8 mars, mais aussi des appels un peu tout autour qui risquent, je le disais, de nous faire défiler sous la protection de la police. Bon, prenons ça comme nous pourrons. En tout cas, les droits des femmes, bah oui, bien sûr, ils devraient exister partout et nous continuerons à les défendre, que chacune et chacun puisse avoir des droits, que chacune et chacun puisse vivre comme il en a envie et sans que ses droits soient remis en cause. Alors nos libertés, bah oui, nos libertés à nous, ce sont celles de lire, d'écrire, de sortir, de voir des spectacles, de faire des spectacles, de parler en public, de crier et de rire, j'en parlais tout à l'heure. Oui, rire de ceux qui voudraient nous enfermer, ceux qui voudraient nous faire violence. Nous défendons nos droits et nous défendons nos droits à vivre dans la liberté et le rire. Alors, en attendant samedi, bah oui, j'ai choisi aujourd'hui de lire des textes d'une autrice et d'une écrivaine militante des droits des femmes, Taslima Nasrin. On va en lire quelques lignes de biographie. Il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà. Taslima Nasrin, elle est connue effectivement pour ses actions militantes et ses actions militantes précisément pour revendiquer la liberté des femmes à vivre comme elles l'entendent et à ne pas vivre sous suggestion, à ne pas vivre soumise. par des règles, des lois, des religions qui effectivement empêchent de vivre et empêchent de vivre libre en tout cas. Alors Françoise va nous lire quelques lignes de cette biographie.
Née en 1962 à Mymensingh, dans ce qui deviendra 9 ans plus tard le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres de notre planète, Taslima Nasrin s'est rapidement révoltée contre le cercle rouge des interdits infligé aux femmes au nom de la tradition et de l'islam, la religion dans laquelle elle a été élevée. Dès 14 ans, Nasrin ne résiste pas à l'envie de composer des poèmes qui seront publiés dans une revue éditée par son frère et quelques amis. Ses études, puis la pratique de la médecine, n'éteindront pas sa soif d'écriture. Aussitôt qu'elle dispose d'un instant, que ce soit pendant le trajet qui l'amène dans les villages auprès des femmes en tant qu'apprentie gynécologue ou entre 2 opérations au Dhaka Medical College Hospital, elle se précipite sur son carnet de notes d'où jaillissent ensuite nouvelles, romans, essais, textes politiques, billets, publiés dans les journaux et encore et toujours de la poésie. Sa ténacité à mettre à nu les racines de l'oppression, son refus des concessions et la qualité de son œuvre la propulse à l'avant-plan de la scène littéraire au Bangladesh et en Inde, où elle reçoit de nombreux prix, dont en 1991 le prestigieux Ananda Literary Award de Calcutta pour Narbashita Kalam. Entre-temps, sa célébrité lui aura permis d'abandonner le scalpel au profit d'une plume affûtée à la révolte contre toutes les formes d'injustice, y compris et surtout contre celles que subissent les femmes. Les fondamentalistes ne supportent pas que qui que ce soit, et encore moins une femme, oppose une rationalité à toute épreuve à l'irrationalité qu'ils entretiennent dans le but de contrôler la société. Ils brûlent ses livres en public et émettent des fatwas contre elle. À l'apparition de l'Aja en 1993, outré par les critiques que Nasrin lui porte, le gouvernement interdit la diffusion du livre. La même année, les fondamentalistes exigent sa mise à mort, par pendaison, pour avoir osé dénoncer dans ses écrits le sort réservé aux femmes par la religion. Suivront de nombreuses manifestations et grèves réclamant son exécution. Lorsqu'en 1994, elle déclare dans une entrevue que le Coran est dépassé, les autorités lancent contre elle un mandat d'arrêt pour atteinte aux sentiments religieux de la population. Prise en étau entre les fondamentalistes et le gouvernement, Nasrin est contrainte de plonger dans la clandestinité. Elle n'en sortira que pour être expulsée du pays 2 mois plus tard, après d'âpres négociations par les gouvernements de plusieurs pays, interpellée notamment par des groupes humanistes et féministes. Elle entame alors une longue errance en Occident qui débutera en Suède en août 1994.
Oui, on a parlé de l'exil dans des émissions précédentes et c'est vrai que Taslima Nasrin, elle a subi un exil absolument redoutable. Elle doit quitter le Bangladesh, donc qui est son pays d'origine. Elle n'est pas acceptée en Inde, puisque l'Inde lui refuse un visa permanent. Et elle doit donc vivre en Occident. Elle va vivre un peu en Suède, un peu en France, un peu ensuite en Grande-Bretagne. Et finalement, elle s'installe aux États-Unis, mais pas de façon vraiment stable, parce qu'elle souhaite toujours retrouver l'Inde et elle souhaite retrouver la culture de l'Inde ou du Bangladesh, même si c'est cette culture qui a fait d'elle précisément une exilée.
Malgré l'intensité du choc et de la souffrance liée à son exclusion du Bangladesh, où elle ne peut toujours pas retourner vivre, Nasrin ne s'est pas repliée sur elle-même, n'a jamais songé à diluer son analyse dans l'espoir d'attendrir les fondamentalistes et les bien-pensants de tous horizons. Elle n'a jamais non plus cessé de s'adresser à ses concitoyens, et dorénavant à un public international à travers des écrits qui empoignent à bras-le-corps la réalité vécue aux quatre coins de la Terre. Parce qu'elle a toujours tenu à atteindre un public le plus large possible et qu'au Bangladesh, une grande partie des jeunes, et en particulier les filles, sont acculées à quitter l'école avant même la fin du primaire, si encore ils ont accès aux études, Nasrin a opté pour une écriture servie par des mots simples, des mots et des expressions de tous les jours que l'on côtoie avec indifférence, paresse ou mépris, auxquelles elle restitue leur saveur initiale ou leur fait quitter le carcan du sens figé.
Ouais, le carcan du sens figé, le carcan de la langue qui est au service du pouvoir, effectivement, c'est ce que Taslima Nasrin refuse. Donc, elle s'exprime dans une langue, on disait simple, dans une langue qui, pour nous, est traduite, bien sûr. Elle continue à écrire en bengali. Souvent, donc, ses écrits sont traduits ou du bengali, mais en passant par l'anglais. C'est pas toujours très facile d'accéder dans ce sens, par exemple, ce qu'on va lire aujourd'hui, la poésie, mais ça nous laisse en effet une langue simple, des images tout à fait parlantes de ce qu'elle souhaite transmettre à ses lecteurs. Et puis, au Bangladesh, ces écrits sont transmis d'une autre façon. Il faut dire qu'au Bangladesh, les récitals de poésie sont encore une forme de spectacle très prisée, une forme qui se passe en direct, c'est du spectacle vivant, dans les villages les plus reculés, comme dans la capitale, Dhaka. Donc, en fait, nombre de poèmes de Taslima Nasrin sont mis en musique directement et sont transmis de cette façon. Alors, de cette façon, nous n'en avons pas vraiment de transmission européenne parce qu'ils ont été diffusés sur cassette ou sur CD qui sont vendus à des milliers d'exemplaires au Bangladesh ou en Inde. Mais en Occident, nous n'avons finalement que peu communication de ces mises en musique. Il y a eu des mises en musique, par exemple, de Steve Lacy, qui est un jazzman américain. Mais les textes les plus mordants, disons, de Taslima Nasrin ne sont pas sur YouTube, donc ils ne sont pas disponibles. Tout à l'heure, dans la musique intermédiaire, eh bien non, je ne vous mettrai pas de la musique indienne. Je vous mettrai de la musique d'une grande bretonne, entre guillemets, de la fin du 19e siècle, qui vous paraîtra peut-être un petit peu traditionnelle, mais qui pourtant, on en reparlera tout à l'heure, transmet aussi cette volonté de résistance qui est ce qui anime avant tout Taslima Nasrin dans ses poèmes. Alors on va commencer par un poème un peu surprenant, qui en fait part sur quelque chose une image très négative, disons. C'est celle de la femme enfermée, de la femme qui n'a pas encore lutté pour sa liberté.
Vivre. Je vis ma vie dans un cercueil, sans cafard et quelques vers m'accompagnent. Je vis parce que je n'ai aucune autre alternative que de vivre. Les cafards et les vers n'ont pas d'autre choix, eux non plus. Des âmes vivent dans un cercueil. Nous nous toisons tous d'un œil vitreux. Nous nous mangeons, nous nous buvons les uns les autres en nous demandant pourquoi nous vivons. Je ne connais pas la réponse. Les cafards et les vers l'ignorent aussi.
Oui, donc c'est pas drôle du tout, mais c'est quand même assez ironique. C'est caractéristique de bien des écrits de Taslima Nasrin. C'est pas du rire, mais c'est une espèce de sourire grinçant qui, disons, perpétue ces images, par exemple, de femmes enfermées ou de femmes enfermées dans la solitude aussi. C'est celle qu'on trouve dans un autre poème qui s'appelle « Pleine lune ». Je suis seule. La lune, là-haut, est seule aussi. Moi qui suis la plus malheureuse sur la terre, je contemple le bonheur dans le scintillement du clair de lune. Me voyant, la lune est si embarrassée qu'elle se voile aussitôt la face de honte derrière un nuage. La lune ne savait sans doute pas qu'un être humain pouvait être aussi seul. La lune a une cour aussi vaste que le ciel et des bandes de filles nuages avec lesquelles jouer. Mais moi, qui ai-je? Qui ai-je pour compagne, pour jouer? Personne. La pleine lune me contemple et je suis seule. Donc c'est une autre image ironique, peut-être un peu plus douce et un peu plus enjouée. Mais c'est vrai que cette soumission que, enfin, à laquelle, disons, la femme doit faire face en permanence, cette espèce d'enfermement que dénonce Taslima Nasrin au départ, c'est celle d'hommes ou de femmes toujours enfermées parce qu'elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas le droit à la vie sociale, elles n'ont pas le droit à la communication si le milieu dans lequel elles vivent leur refuse. Il y a un autre poème qui dit bien cela, qui décrit l'isolement par rapport à la nature qui entoure la femme.
Courbée devant un arbre. Je n'atteins que les branches douloureuses. Jamais je ne toucherai le sommet où le vert feuillage dissimule le bonheur. Étendre les bras m'affole. Qui pansera mes maux et mes blessures? Je me suis assise sous ton ombrage tout au long de mon infinie jeunesse. Je voulais ramasser les fleurs et les feuilles mortes, glaner quelques raisins pourris. Mes pieds sont couverts de poussière. Toute la journée, j'ai erré tel un cerf-volant coupé de son fil. Je t'en prie, donne-moi quelque chose, car rentrer chez moi les mains vides est de mauvais augure. Même si tu me transmets la maladie jaune que tu abrites, je prendrai ça pour du bonheur, les yeux fermés, si tu le dis. Bon, si tu ne peux pas me donner un peu de vrai bonheur, pourquoi refuser de me donner un peu de douleur ?
Alors ça, c'est carrément affreux. C'est la référence au fait que la femme est en effet enfermée ou ne sort que pour faire quelques courses et pour prendre l'air. Et alors que l'homme, lui, court le monde. En courant le monde, il attrape éventuellement des maladies sexuellement transmissibles et les transmet à sa femme qui pourtant, elle, est enfermée à la maison. Donc c'est le genre de liberté des hommes que les femmes enfermées, elles, subissent sans pouvoir vraiment lutter. Et c'est cette espèce d'ironie vers les quelques libertés que connaissent les femmes qui se retrouve dans d'autres poèmes que nous ne lirons pas in extenso. Il y en a un que j'ai quand même trouvé très drôle dans sa référence à l'Occident. C'est un très court poème, on pourrait dire presque un petit quatrain, dans lequel Taslima Nasrin s'adresse à Michel-Ange, eh oui, en lui parlant de ton David. Descends ton David de son socle de pierre, place des yeux dans ses orbites, demande-lui de se débarrasser de son arme. Les ennemis sont morts, alors efface les rides qu'il a entre les sourcils, et maintenant il va pouvoir marcher vers moi, et je l'embrasserai passionnément, ton David, Michel-Ange. J'ai trouvé ça très drôle, cette espèce d'image-là que saisit une poétesse du Bangladesh pour s'adresser à Michel-Ange, parce qu'elle a vu David, elle a trouvé que David était beau, mais qu'évidemment, il fallait quand même le débarrasser d'un peu de sa gangue de pierre et de son image traditionnelle. Alors voilà, ça c'était la façon de s'adresser à David ou à l'homme peut-être un peu fétiche de la beauté occidentale. Une autre façon de s'adresser à l'homme, c'est de dire qu'en effet, comme tout à l'heure, même dans la maladie, même dans la douleur, retrouver une liberté ou retrouver la liberté d'un corps, c'est ce qui permettra de vivre autrement. Alors, c'était en principe Françoise qui devait vous lire ça, mais si ça va, alors je lui passe le livre.
Parce que tu ne viens jamais à moi quand je t'appelle, je veux tomber malade et rester clouée au lit. Apprenant la nouvelle, tu irais chercher ton passeport, je le sais. Tu le débarrasserais de la poussière et tu filerais au bureau des visas acheter un billet. Puis, tu jetterais ton emploi du temps si bien rempli au vent de la ville cosmopolite. Tu rangerais tranquillement tes papiers dans un tiroir et tu prendrais le premier avion pour atterrir ici, à Dhaka, dans cette ville frénétique. Tu verrais le tapis rouge qui sert d'escalier à ma maison. Tu sentirais l'odeur de la fièvre incurable et des médicaments. Et si tu respirais à fond, tu sentirais l'odeur de l'amour. Je voudrais avoir une grave maladie. Les jambes et les bras écrasés par un camion fou, une balle dans le foie, les reins bloqués, une paralysie, un cancer du sang. J'accepterais tout si tu viens, si tu t'assieds près de moi, si tu me prends la main. Les maladies incurables guériront, mon esprit sera guéri. Je pourrai de nouveau me lever et marcher, contempler l'azur somptueux derrière la fenêtre. Si la pierre ne fond pas après tant de maladies, alors je souhaite mourir pour de bon. Si je suis morte, tu viendras, j'en suis certaine. Tu devras venir me fermer les yeux et incinérer mon corps, pourvu que tu viennes.
Oui, donc c'est un peu bizarre, vous allez me dire, de la part du militante, cette espèce de poème de soumission ou cette espèce de poème qui dit que tout est préférable à la séparation d'avec l'homme qu'on aime, puisque dans ce poème, l'homme qu'on aime, bah, il est en Occident, il vit librement, alors que la femme est restée enfermée dans son domicile, enfermée aussi dans sa solitude, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va peut-être arrêter là les images négatives. Et puis, on va essayer de passer à autre chose. J'avais trouvé en particulier, de façon assez drôle, un poème sur... faut que je le retrouve. Un poème sur l'âge, enfin sur, l'âge qui ne compte pas en amour. Alors, en amour, l'âge ne compte pas. Pour l'homme, bien sûr, au début, c'est ce qu'elle dit, mais pour la femme non plus. Donc, hommes et femmes, soyons libres de nos corps et soyons libres de nos corps, même longtemps. Que nous dit-elle ? Ô jeune homme de 60 ans, tombe amoureux si tu veux. En amour, l'âge ne compte pas. Une règle de l'amour, dit-elle, qu'il faut avoir entre 20 et 25 ans, que c'est à ce moment-là qu'on doit faire l'amour ? Mais non, à 16 ans comme à 60, le fleuve souterrain de l'amour suit son cours. À 60 ans, le cœur peut encore saigner et les doigts saisir d'amour, trembler dans une étreinte. À 60 ans, l'esprit peut encore plonger dans une mare de boue, mais en remonter un lotus. L'âge est une barrière dérisoire, par-dessus laquelle on peut sauter à son gré. Au fur et à mesure que l'âge avance, la jeune plante de l'amour pousse avec luxuriance, atteint le ciel et devient un arbre. Plus elle avance en âge, plus une femme sait aimer. Alors, mesdames, là, pour les jours à venir, là, pour la libération, pensez-y. Plus elle avance en âge, plus une femme sait aimer. On va continuer dans cet ordre d'idées avec... Un amour rêvé ou réel, on ne sait pas trop, autorisé ou interdit. Je vais garder la parole pour vous parler d'un drôle de rêve. Hier soir, sur le campus de la Bangla Academy, j'ai rencontré un drôle de rêve. Un drôle de rêve qui mangeait des cacahuètes, qui plaisantait avec ses amis tout en tripotant les épluchures de cacahuètes. Je l'ai regardé et ce drôle de rêve, au fond des yeux, dans ses yeux, il avait la couleur voilée du crépuscule. La fumée de marijuana s'entortillait en volute dans le vent et s'entrelaçait à mon foulard. Dans mes yeux rêveurs, il y avait le ciel, enfumé et parfumé, et sur le front du ciel, 100 000 points de pâte de santal, comme dans la tradition, mais plus librement. Et soudain, sans se soucier de qui que ce soit, le drôle de rêve m'a attrapé, m'a prise dans ses bras, puis m'a dévoré de 39 baisers qu'il a comptés un à un. Les cheveux du drôle de rêve se dressaient dans le vent fantastique, les boutons de sa chemise étaient ouverts. Inondée par le clair de lune, je suis rentrée chez moi en chancelant à minuit passé et le drôle de rêve m'a suivie en me parlant d'amour tout le long du chemin. Ce drôle de rêve est d'une totale impudeur. La nuit s'est écoulée, puis la journée, et à aucun moment il n'a parlé de s'en aller. Alors voilà, c'était un drôle de rêve ou une drôle de réalité, nous n'en saurons pas plus. En tout cas, c'est cette volonté d'indépendance, cette volonté de jouer entre rêve et réalité qui fait que, ben oui, la liberté des femmes peut s'affirmer, au moins dans l'imaginaire, si ce n'est pas dans la réalité. Et c'est vrai que les femmes ont besoin de cet imaginaire parce que dans la réalité, ben, hélas, elles ne sont souvent que des marchandises ou des biens dont on dispose librement. Alors, je vais d'abord vous lire une espèce de petit pamphlet sur précisément les femmes en photo. Et puis, Françoise reviendra à la réalité avec les femmes marchandises. La femme de la photo. Qui a sa photo sur l'affiche ? Une femme. Qui se pavane presque toute nue ? Une femme. Ou bien qui est recouverte des pieds à la tête ? Une femme. Qui a mille manières de se coiffer ? Une femme. Qui met de la couleur sur son visage ? Une femme. Qui a besoin de bijoux sur le nez, les oreilles, les mains, les pieds ? Une femme. Mais qui porte sur le dos les marques des coups de fouet ? Une femme. Qui a les larmes aux yeux ? Une femme. Qui a été tuée en pleine nuit ? Une femme. Et qui sourit sur la photo ? Une femme.
Une femme ? Vous voulez une femme ? Il y a là toutes sortes de femmes. Des femmes à la peau claire, des grandes, les cheveux jusqu'aux genoux, la taille fine, la silhouette ferme et bien galbée. Pas un gramme de gras ni de sel, pas un pli, pas une ride. Nez percé, oreilles percées, tube digestif percé, touchez et vérifiez bien que rien d'autre n'est percé. Aucune main n'a jamais effleuré ses membres de vierge, sa sève n'a jamais coulé. Voilà une femme dont personne n'a encore profité. Une femme ? Vous voulez une femme ? Prenez-lui trois solides repas par jour. Pardon, donnez-lui trois solides repas par jour. Offrez-lui des saris, des bijoux et un bon savon pour adoucir son corps. Elle ne lèvera pas les yeux, n'élèvera pas la voix. C'est une femme timide et réservée, capable de préparer 7 plats rien que pour le déjeuner. Ce modèle femelle est à utiliser comme bon vous semble. Libre à vous de lui enchaîner les pieds ou les mains, de lui enchaîner l'esprit. Libre à vous de divorcer. Dites divorce, 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 et vous voilà divorcé.
Oui, c'est ça. Et là, donc, évidemment, l'inégalité du sort des hommes et des femmes, puisque les femmes sont soumises et que les hommes peuvent toujours se libérer des liens matrimoniaux quand ils ne les désirent plus. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on écouterait une musique différente de celle, disons, des pays dont on parle maintenant, et même des douleurs de l'exil de Taslima Nasrin. J'ai cherché dans les compositrices de musique, puisque finalement il y en a peu, et puisque la musique, de façon traditionnelle, de même qu'elle a un peu oublié la sœur de Shakespeare, a aussi oublié la sœur de Mendelssohn ou la sœur ou la femme de Mahler, etc., etc. Donc, dans la musique, oui, il y a une compositrice britannique qui s'appelle Ethel Smith. Et Ethel Smith a écrit La Marche des Femmes. Bon, je me suis dit, ça, c'est génial. Pour le 8 mars, La Marche des Femmes, ça va être très bien. Eh bien non, figurez-vous que La Marche des Femmes, c'est un genre d'hymne qui ressemble à un hymne quasi d'église. Donc non, ce n'était pas du tout ce que je souhaitais comme musique. Je suis donc allée chercher une autre musique de Ethel Smith. Ça s'appelle The Wreckers, c'est-à-dire Les Naufrageurs. Et j'ai bien aimé cette idée des naufrageurs parce que c'est une tradition britannique qui avait perduré au XIXe siècle. C'était celle que les pauvres gens de Cornouailles pouvaient évidemment venir en aide aux naufragés quand ces naufragés étaient le fruit de tempêtes dues au hasard. Ils aidaient les naufragés, mais ils récupéraient les biens des naufragés. C'est-à-dire qu'ils allaient, lorsque le calme était revenu, chercher dans les épaves tout ce qui pouvait leur permettre de vivre un peu moins mal. Et ils en étaient venus à devenir naufrageurs, c'est-à-dire à provoquer des naufrages par des lumières situées sur des récifs et donc des lumières qui faisaient naufrager les navires marchands. Alors, la tradition restait la même, c'est-à-dire qu'on venait en aide aux personnes, mais qu'on récupérait les biens. Donc, cette espèce de tradition, disons, des pauvres gens, de chercher à récupérer ce qu'on pouvait de la vie, j'ai trouvé que dans The Wreckers, S.L. Smith en donnait des notes assez passionnantes. C'est une musique, vous allez voir, un peu traditionnelle, mais une musique en même temps vindicative. Et puis, dans la traduction, ou du moins l'interprétation que j'en ai choisie, c'est celle du Queer Orchestra. Donc, finalement, c'est les femmes qui interprètent une musique de femmes et une musique libératrice, puisque c'est celle des naufrageurs. Donc, c'est Louise qui va nous faire entendre la musique des naufrageurs. Voilà, donc dans les naufrageurs et même les naufrageuses, il y a les notes un peu vindicatives du début et puis la paix qui revient avec l'accalmie sur les rochers et qui permet donc de récupérer ce qu'il y avait à récupérer dans les bateaux. Les images de naufrageurs ou de naufrageuses, elles sont effectivement éventuellement violentes. Et les images violentes, eh bien, Taslima Nasrin ne nous les épargne pas dans certains de ses poèmes quand elle dénonce la violence de la société vis-à-vis des femmes, bien sûr, mais aussi vis-à-vis des hommes qui sont les pères de filles à marier. Dans la, dans la société occidentale, souvent la famille de l'homme payait une dot à la famille de la femme. Mais dans la société indienne, très souvent, c'est au contraire la famille de la femme qui doit payer une dot pour se séparer de filles qui sont malencontreusement nées. On se demande ce que deviendrait la société s'il n'y avait pas de filles, mais enfin, c'est vrai que les filles sont ressenties comme des poids difficiles à supporter plus qu'autre chose, alors que précisément elles deviennent souvent des esclaves dans les familles où elles entrent. Mais enfin, voilà, dans le poème qui s'appelle « La dot », Françoise va nous dire que tout est difficile, y compris pour la famille de la fille.
Obligée de verser une dot pour marier sa fille, Samiran Mandal a dû vendre ses champs. Mais ce n'est pas assez. Les maisons aussi ont été vendues. Mais ce n'est pas assez. Il faut encore plus. Samiran ne peut satisfaire la demande. Il paiera le reste plus tard, pas maintenant. Il l'a promis. Il a donné sa fille en mariage. Jour après jour, la jeune mariée se fait insulter, gifler, frapper, fouetter. Les fleurs du jardin sont fanées, les ronces l'envahissent. Un an a passé. Pourquoi ne paies-tu pas la dot, Samiran ? Bientôt, bientôt, laisse-moi encore un peu de temps. Mais du temps, il n'y en a plus. L'argent a trop tardé. Le marié a tranché le cou de la mariée. Samiran ne dit rien. Honteux, il se cache le visage.
Oui, c'est absolument affreux, donc cette espèce de maintien d'une tradition qui fait que la dot doit être payée, sinon la femme est exécutée. C'est une image sanglante et horrible, dont on espère qu'elle n'existe plus, mais c'est en tout cas une image de la tradition qui fait froid dans le dos. Alors, contre cela, et même si ça transmet une image de soumission au départ, Taslima Nasrin écrit au contraire un poème très connu qui s'appelle « La femme qui casse les briques ». Et la femme qui casse les briques, c'est une image qu'on rencontre très souvent dans tout le continent indien, que ce soit donc au Bengale indien ou au Bangladesh, que ce soit aussi dans les terres du Pakistan, du Ladakh, du Népal. Les femmes participent à des chantiers, les femmes qui portent quelquefois sur le dos leur dernier né, participent donc à des chantiers routiers ou à des chantiers de construction. Elles fabriquent les briques, elles cassent les briques, elles cassent le sol pour pouvoir paver les routes. Elles transportent des... Comment est-ce que ça s'appelle ce qui fait les voies ferrées ?
Les rails ?
Non, pas les rails, les autres.
Perpendiculaires.
Voilà, ce qui est perpendiculaire aux rails. Ça a un nom. Bon, c'est pas grave, nous le retrouverons plus tard. Elle transporte donc de quoi construire en effet les voies ferrées quand il faut les remettre en état. Et ces femmes qu'on rencontre un peu partout sur les routes ou le long des voies de chemin de fer, elles sont vêtues de saris multicolores. Elles donnent une image de la vie qui pourrait être joyeuse, mais ce ne sont au fond que des femmes qui cassent des briques ou qui font des travaux très difficiles pour faire vivre leur famille. La femme casse les briques. Elle est assise sur un trottoir. La femme au sari rouge casse les briques sous le soleil brûlant. La femme, couleur de bronze, casse les briques. À 20 ans, elle en paraît 40. Et 6 enfants l'attendent là-bas à la maison. La femme casse les briques toute la journée. En échange de quoi, elle recevra 10 takas, pas un de plus. 10 takas ne suffisent pas à la nourrir, ni elle, ni les 6 autres. Et pourtant, jour après jour, la femme casse les briques. L'homme assis près d'elle casse aussi des briques, abrité sous une ombrelle, et lui, il touche 20 takas par jour. 20 takas par jour parce que c'est un homme. 10 takas par jour pour la femme. La femme a un rêve, oui, le rêve d'avoir aussi une ombrelle, et le rêve d'être payée 20 takas par jour. Ah oui, entre-temps, on a retrouvé les traverses. La femme a un rêve. Elle rêve d'avoir une ombrelle, elle rêve de casser les briques à l'ombre de l'ombrelle, elle rêve d'être payée 20 takas par jour. 20 akas pour les hommes, mais oui, le double pour les hommes. Donc, un de ses rêves serait, par un beau matin, de redevenir un homme. Devenir un homme, c'est ce que souhaite une femme. Elle attend que son rêve se réalise, mais non, dans la vie, rien ne le réalise. Devenir un homme, ça sera dans une autre vie. Rien ne lui fait avoir l'ombrelle dans cette vie-là, même pas une ombrelle déglinguée. On construit de nouvelles routes, on construit d'immenses tours avec les briques qu'elle a cassées. Mais le toit de sa maison s'est envolé avec la tempête l'an dernier et l'eau coule goutte à goutte dans sa maison. Elle n'a même pas une bâche, elle meurt d'envie d'avoir un toit en tôle au-dessus de sa tête. Son rêve, c'est la journée une ombrelle et la nuit un toit en tôle au-dessus de sa tête. Elle pourrait hurler, un cri qui s'entendrait dans tout le voisinage. Mais les gens s'esclaffent en disant qu'elle ferait mieux de dépenser de l'huile pour ses cheveux ou de la poudre pour son visage. Les enfants doivent être nourris. La peau de la femme s'assombrit de jour en jour. Ses doigts deviennent durs comme les briques qu'elle casse. La femme elle-même devient une brique. Son corps, son cœur sont plus durs que les briques. Le marteau peut casser les briques, mais rien ne peut casser une femme. Rien. Ni la chaleur du soleil, ni le ventre vide, ni le regret de ne pas avoir de toit de tôle. Rien ne peut briser une femme. Donc c'est un chant, bien sûr, ou un poème de résistance. Il y en a d'autres qui parlent, par exemple, des filles de la confection. Elles marchent ensemble, les filles de la confection, comme des centaines d'oiseaux volant dans le ciel du Bangladesh.
Les filles de la confection regagnent leur taudis à minuit. Les vagabonds des rues tentent de leur soutirer quelques tacas. Les fils de riches frôlent et se frottent au corps des filles. Les filles en perdent le peu qu'elles possèdent. Après une nuit sans sommeil, juste avant l'aube, les filles repartent ensemble. Dès qu'ils les voient, les gentlemen ont l'eau à la bouche. Dès qu'ils les voient, ils leur crachent dessus. Mais les filles continuent à marcher droit devant. Elles ne prennent la nourriture et les vêtements de personne. Elles marchent droit devant. Les filles de la confection sont enchaînées à la corde impitoyable des riches. Elles marchent telles le bétail aveugle qui fait tourner la machine à huile des riches. Les riches prennent l'huile. Elles n'ont droit qu'aux déchets. Elles ne verront jamais d'arc-en-ciel. Recouvrant leur corps de ténèbres, les mafieux des taudis les ont violées. Elles ne se baigneront jamais au clair de lune.
Les filles de la confection. Les filles de la confection marchent ensemble et les vêtements qu'elles fabriquent, c'est un peu comme si des centaines de morceaux du Bangladesh volaient dans le ciel du monde. Alors, vous vous souvenez bien sûr de cette horrible catastrophe qui avait eu lieu à Dhaka il y a quelques années, lorsqu'une usine de confection précisément avait brûlé avec presque ou plus de 1000 ouvrières et ouvriers qui fabriquaient des vêtements pour l'Occident et qui avaient brûlé dans leur usine à sueur, on peut dire. Eh bien, ce poème des filles de la confection, oui, reprend sur le mode un peu de l'imaginaire une triste réalité, celle des conditions de travail des femmes et aussi d'hommes, bien sûr, au Bangladesh pour fabriquer des articles vendus en Occident. Mais c'est vrai que là encore, la situation des femmes est pire que celle des hommes. Donc les filles de la confection, oui, Taslima Nasrin nous dit qu'elles marchent ensemble et on peut souhaiter que les femmes marchent ensemble pour se défendre, pour défendre leur situation, pour revendiquer bien sûr contre l'exploitation dont elles sont victimes encore plus que les hommes. Alors, il y a un long poème, de Taslima Nasrin qui reprend au fond ces difficiles conditions de vie des femmes soumises aux lois islamiques dans certains pays. Et elle reprend cette histoire, vraiment une histoire, un poème en prose, pourrait-on dire, qui raconte en fait la vie de deux sœurs qu'elle a appelées Mecque et Médina. Eh ben oui, Mecque et Médine comme deux grandes villes de l'islam. Et deux images, en tout cas, de l'islam qui, par exemple, au Bangladesh, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, accroissent encore la soumission des femmes. Alors, on va lire l'histoire de Mecque et Médine, les deux sœurs qui sont victimes de cette image de la femme dans certains pays de l'islam. Mecque et Médine sont deux sœurs. L'une a 9 ans, l'autre 11. Un après-midi, elles rentrent de l'école. Leurs deux cotes-cheval se balancent dans leur dos. Et dans une ruelle, la petite demande à l'autre « Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi le soleil ? Pourquoi la lune ? Pourquoi le vent ? Pourquoi la rivière ?» Elle traverse les rues, elle rentre chez elle, elle passe devant des arbres. Médine a répondu à toutes les questions de Mecque. D'où vient la couleur des papillons? D'où vient le parfum des fleurs? Médine répond à chaque fois. Aucune question ne la laisse sans voix. Elle puise ses réponses dans les livres, dans les contes fabuleux, dans sa tête. Elle ne déçoit jamais sa petite sœur, Mecque. Elle marche en la tenant par l'épaule. Elle veille à ce que la petite Mecque ne tombe pas dans un trou, ne se prenne pas le pied dans la boue. Médine veille sur Mecque, elle protège bien sûr sa petite sœur. Mais Mat Arbor rentre chez lui. Il vient d'aller prier à la mosquée. Il a vu les queues de cheval, il a vu les serpents qui se tortillaient dans le dos des sœurs. Et les grains de son chapelet se sont figés entre ses doigts. Lui-même est resté figé sur place. Figé, oui, comme un homme qui, même en sortant de la mosquée, aspire à tous les péchés. Une main sur son chapelet, il attrape Médine, oui, par l'autre main, par les cheveux. Il l'entraîne dans un appentis sans un mot. Et dans la maison qui est devant l'appentis, il y a les quatre femmes de Mator Ali, ses enfants, ses petits-enfants. Mais lui, dans l'appentis, il apprend à Mecque et à Médine comment se comporter. Il leur décrit les flammes où elles brûleront en enfer si elles n'acceptent pas de se soumettre à lui. Ou si elles sortent sans se couvrir, après tout, elles n'ont qu'à se couvrir quand elles sortent. Et puis, elles n'ont qu'à pas aller à l'école. Ce n'est que justice pour Mecque et Médina. Quand leur père, Jamar Mia, a réclamé justice au village, le procès a commencé, oui, le procès a commencé dans la cour de Jamar Mia. C'est l'imam de la mosquée qui est le juge. Et tous les notables du village sont présents, y compris Madbor Ali avec sa barbe blanche et sa tenue blanche qui le fait ressembler à Allah en personne. Qui a agressé les deux sœurs? Qui les a violées? Jamar Mia désigne Madbor Ali. « Mais y a-t-il un témoin? Faites venir les témoins, dit l'imam d'une voix détachée. » Jamar Mia jette un regard désespéré sur les villageois. Qui va vouloir témoigner? Personne n'a assisté à la scène. À part la petite Mecque et la petite Médine, il n'y a pas de témoin. Jamar Mia rampe en criant à tue-tête, « Mais Allah m'est témoin !» L'imam ne peut pas prendre Allah à témoin. Et puisque Mecque et Médine ont perdu leur vertu, ce sont elles les coupables. L'amende s'élève à 5000 takas. L'imam accorde un délai de paiement d'une semaine à Jamar Mia. S'il ne paie pas, ces deux traînées recevront 100 coups de fouet. Ce n'est que justice. Les notables rassemblés applaudissent. Jamar Mia, le petit agriculteur, n'a pas pu réunir les 5000 takas pour payer l'amende. La semaine suivante, la petite Mecque et la petite Médine sont fouettées, comme prévu. Tout le village assiste à la scène, y compris Madbor Ali. Toutes les surprises du monde se lient dans les yeux de Mecque. Pourquoi nous punir ainsi? Pour quel crime? Médine, qui avait toujours réponse à tout, qui connaissait les réponses à toutes les questions qu'elle lui posait, non, elle n'a pas trouvé les réponses. Elle n'a pas trouvé les réponses dans les livres ou dans les contes fabuleux ou même dans sa tête. C'est une question trop difficile pour Médine. La réponse, elle ne la connaît pas. Et pour la première fois, elle est restée sans voix. Alors, la petite Médine est restée sans voix. Si nous sommes là et si nous luttons et si nous descendons dans la rue samedi, c'est aussi pour que Médine retrouve sa voix. C'est aussi pour que les femmes de certains pays retrouvent leur voix, qu'elles retrouvent leur humanité en particulier. Donc, il y a un poème de Taslima Nasrin qui s'appelle « Mon humanité ».
Je n'ai jamais dit à ma mère que je l'aimais. Je l'ai dit aux mères des autres. Je n'ai jamais soigné la maladie de ma mère. J'ai soigné les maladies des mères des autres. Je n'ai jamais pleuré sur ma mère, mais j'ai pleuré sur la tristesse des mères des autres. En agissant ainsi, je suis devenu quelqu'un de gentil aux yeux des gens. Je ne me suis jamais assise auprès d'elle qui m'appelait. Je n'ai jamais posé ma main sur sa main, ni mes yeux sur les siens. Je ne l'ai jamais aimée, elle qui m'aimait plus que tout. J'ai donné tout ce que j'avais, quoi que j'ai pu avoir ou ne pas avoir, à ceux qui ne m'ont jamais aimé. En agissant ainsi, je suis devenue la personne la plus gentille qui soit. Je suis devenue humaine aux yeux des humains.
Oui, c'est un peu mystérieux si on ne sait pas que Taslima Nasrin, en effet, dans l'exil, a dû abandonner sa mère malade, sa mère qu'elle n'a pas pu retourner soigner dans son pays, puisqu'elle était devenue médecin, mais qu'elle avait dû subir l'exil du Bangladesh, on vous l'a dit tout à l'heure. Elle a donc quitté son pays, elle a quitté sa mère, et bien sûr c'est une figure de style de dire qu'elle n'aimait pas sa mère, mais c'est ce que sa mère en tout cas aurait pu ressentir, puisque Taslima n'était pas là. Lorsque sa mère était malade, lorsque sa mère avait besoin d'elle. Et donc, cette espèce de poème un peu dérisoire, ou là encore ironique, qui dit « je n'aimais pas ma mère », c'est évidemment complètement faux, c'est évidemment une image. Mais c'est celle qu'elle a été obligée de subir, puisqu'elle a été éloignée de sa mère, malade ou mourante. Elle a été exilée de son pays où elle aurait pu soigner sa mère. Et il y a d'autres images, justement, qui sont conduites ou qui sont figurées des mères dans d'autres poèmes de Taslima Nasrin. Je vais vous en lire un autre. Nous avions une mère magnifique. Nous avions une mère. Elle nous mettait au lit, nous chantait des berceuses. Elle préservait notre corps de la poussière, elle préservait notre esprit de la salissure, elle nous aidait à garder la tête sur les épaules. Mais les gens quelquefois la traitaient de sorcière, et nous aussi. Nous allions à l'école et on nous insultait pour ça. Et les autres traitaient notre mère d'idiote. Mais non, absolument pas. Nous n'en étions même pas blessés. Peu nous importait. Peu nous importait. Alors, peu nous importait aussi qu'elle soit malade ? Peu nous importait qu'elle se noie ? Peu nous importait qu'elle meure de faim ? Peu nous importait que ses vêtements soient déchirés ? Non, non, non. Nous la traitions en mère ? Pouvions-nous la traiter en mère ? Quelquefois, ce n'était pas possible. Pouvions-nous la traiter en être humain ? Quelquefois, ce n'était pas possible. Mère voulait dire qu'elle effectuait les corvées. Mère voulait dire qu'elle cuisinait et servait à merveille. Mère voulait dire qu'elle lavait les vêtements, qu'elle les séchait, qu'elle les pliait. Mère voulait dire qu'elle était debout de l'aube au soir, qu'elle n'avait besoin ni de manger, ni de se reposer, ni de dormir. Mère était là pour sourire, elle était belle même quand elle pleurait. Mère était magnifique quand elle s'abandonnait à la richesse, à la rivière de ses chagrins. Mère voulait dire qu'elle avait donné la vie et elle essayait de la garder, notre vie, elle essayait de la conserver. Elle souffrait, elle pleurait, mais quelquefois elle jouait la comédie pour nous, de ne pas souffrir, de ne pas pleurer. Lorsqu'elle est morte, elle a été ensevelie sous la terre et nous avons chacun accompli notre devoir. Je n'étais pas là. Mère n'était plus là. Mais finalement, ce n'était peut-être pas ce qui importait. Elle avait été la mère. Elle serait toujours la mère. Et ce poème, donc, traduit du bengali en passant par l'anglais, bah oui, ça passe aussi par cette expression. Vous savez, en anglais, « once a mother forever ». Quand vous êtes une mère une fois, vous êtes une mère pour toujours. Donc la mère de Taslima Nasrin, ça a été une mère pour toujours. Et la douleur de Taslima Nasrin, c'est peut-être de ne pas avoir été une fille pour toujours. C'est cette absence, disons, de la fille lors de la maladie et de la mort de sa mère qui a été ce qui lui a tant pesé. Elle le dit dans un autre de ses poèmes. « Tu assouvissais mes désirs, telle une magicienne. Si j'avais faim, si j'avais soif, si j'avais envie de lire, si j'avais envie de m'habiller, si j'avais envie de jouer, si j'avais envie de parler, de marcher, de dormir, tu étais celle qui le savait pour moi. Et tu faisais tout pour moi. Tu me laissais vivre avec mes mains, mes pieds, mon esprit. » Tu restais en retrait souvent. J'ai pris tout le bonheur pour moi et tu étais souvent éloignée. Est-ce que je t'ai assez donné? Est-ce que je t'ai assez aimé? Peut-être que même moi, je ne t'ai rien donné et peut-être que moi, je ne t'ai jamais aimé. Tu étais derrière le rideau. Était-ce vraiment une vie humaine? Tu étais la servante. Tu apportais du bonheur aux autres comme une servante, mais comme une magicienne aussi. Nous allions à l'école, c'était une vraie richesse. Tu étais une magicienne, tu approchais tout de ma bouche, de ma main, tu me donnais tout, enfin tout ce que tu pouvais. Est-ce que tu étais vraiment un être humain? Tu étais le pilier de la maison familiale, mais as-tu vraiment été un être humain? Et cette question, c'est vraiment la question centrale, finalement, des droits de la femme. C'est la femme fait tourner le monde ou la femme, comme disait Mao, est la moitié du ciel. Enfin, il disait les femmes sont la moitié du ciel. Donc, les femmes sont en tout cas plus que la moitié du ciel et plus que la moitié de la terre, puisqu'elles font vivre le ciel et la terre. Mais elles n'ont pas forcément leur place dans nos sociétés. Donc, nous défilerons vendredi soir, samedi après-midi, pour rappeler les droits des femmes. Nous lirons ou relirons les poèmes de Taslima Nasrin. Nous écouterons les musiques de Essel Smith et d'autres autrices, d'autres compositrices qui n'ont pas toujours eu leur place dans le monde, mais qui, nous l'espérons bien, un jour, l'obtiendront. Donc, vive la journée du combat pour les droits des femmes et vive les combats des droits des femmes de façon générale. À bientôt. Musique.